تقرير مصيري هذا.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حوار النشرة. شكرا لكم سيد لك حلماء العينين الدبلوماسية الصحراوي على كل هذه التوضيحات.
شكرا جزيلا.
إذا تقبلوا مستمعينا تحياتي، أنا أحلام بوزير، في أمان الله.
راديو ألجيري انترناسيونال، لو جورنال.
Au sommaire, la diplomatie religieuse à l'honneur de ce 16 avril, journée de la science et du savoir, le projet d'une version audio du Saint-Coran lu selon la Riwaya Warsh est lancée. Elle sera distribuée au niveau régional et arabe. Le premier exemplaire sera offert au président de la République. Les détails dans ce journal. Tenue aujourd'hui de la 28e édition de la journée de l'énergie, à cette occasion, le ministre de l'énergie, Demine Mohamed Darkab, annonce que l'Algérie est en phase de préparer un important projet pour le développement de l'Afrique en matière d'énergie. Il est l'invité de l'entretien du journal. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza au 193e jour de l'agression sioniste. Le Trésor américain prépare de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque militaire contre l'entité sioniste. Mesdames, Messieurs, bonjour, est avec vous à Wakilou pour ce 13h30. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a reçu aujourd'hui au palais du gouvernement l'ambassadeur de la République portugaise qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Les entretiens ont porté sur l'évaluation des relations bilatérales et leurs perspectives d'avenir à la lumière des prochaines échéances bilatérales en vue de renforcer un partenariat économique fructueux entre les deux pays, conformément aux conclusions de la visite d'État effectuée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Portugal en mai 2023. Il a également été question de la situation régionale et internationale actuelle, notamment l'agression israélienne incessante contre le peuple palestinien dans les territoires occupés. Je vous le disais en titre tout à l'heure, nous commémorons ce mardi la journée de la science et du savoir qui coïncide avec le 16 avril de chaque année en hommage au fondateur de l'association des oulémas musulmans algériens, le savant Cheikh Abdelhamid Ben Badis. À cette occasion, Radio Coran a organisé aujourd'hui une conférence sur la préservation de l'apprentissage et l'enseignement du Saint-Coran en présence du ministre des Affaires religieuses et des Works Youssef Belmadi et le ministre de la Communication Mohamed Lagab. Le ministre des Affaires religieuses et des Works Youssef Belmadi a rappelé à cette occasion les efforts de l'Algérie dans la promotion d'un islam modéré en Afrique. Je vous propose de l'écouter.
Ce projet contribuera efficacement à la diplomatie religieuse en Afrique. Promouvoir un islam modéré fait partie de la stratégie du ministère des Affaires religieuses de l'Algérie nouvelle. Je tiens à rappeler que nous procéderons dans les prochains jours au lancement du projet d'un institut de formation des imams dans la ville d'Agadez. Nous avons également inauguré une mosquée dans le nord du Niger. Cela prouve que l'Algérie accorde d'une importance à cette dimension africaine et la concrétisation de cette version audio du Saint-Coran permettra à l'Algérie d'être présente sur la scène internationale et arabe à travers les radios arabes et nationales.
De son côté, le directeur général de la radio nationale, Mohamed Barali, a souligné que le projet d'une version audio du Saint-Coran, lu selon la Riwaya Warsh, est hautement symbolique et permet de promouvoir les valeurs de l'islam. Barali a précisé par ailleurs que le premier exemplaire de ce projet sera offert au président de la République. Je vous propose de l'écouter.
C'est un Coran lu par Riwaya Warsh par un Mouratil. Algérien avec une voix exceptionnelle. C'est un projet hautement important, mais surtout hautement symbolique. Via des projets pareils, on veut réinstaller l'Algérie comme un pays, un État très important dans la géographie musulmane. On doit impacter cette géographie positivement, bien sûr, en imposant les véritables valeur de l'islam. On a eu la promesse de Dr Youssef Ben Mahdi, ministre des Affaires religieuses, qui va offrir officiellement le premier exemplaire de ce projet à M. le Président de la République. Et on va demander l'autorisation de M. le Président de la République pour offrir gracieusement ce Coran à toutes les radios arabes et musulmanes, et africaines bien sûr.
Ces propos ont été recueillis par Kenza Soltani. Autre actualité restant toujours à Alger, tenue aujourd'hui de la 28e journée de l'énergie sous le thème « Pour un modèle énergétique flexible 2035 ». En présence du ministre de l'énergie, des mines, Mohamed Darkab, à cette occasion, le ministre de l'énergie a souligné que le réseau à très haute tension dans le sud du pays permettrait de réussir le schéma électrique reliant l'Algérie à plusieurs pays africains, notamment les pays du Sahel. Mohamed Darkab a rappelé que l'Algérie est en phase de préparer un important projet pour le développement de l'Afrique en matière d'énergie. Je vous propose de l'écouter. Répondez aux questions de Hafid Ahmed Deb.
Nous ambitionnons avec le réseau très haute tension à Tamanrasset. Vous imaginez à Djanet, à Tamanrasset, à Tindou, avec le réseau très haute tension. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons vers les pays du Sahel et d'autres pays africains que nous voulons développer avec eux et réussir ensemble dans ce schéma électrique qui peut regrouper l'Algérie à plusieurs pays africains, le Sahel en premier lieu, et d'autres pays africains, l'Afrique centrale et vers tous les pays africains. Nous sommes en train de préparer un extraordinaire projet qui va apporter beaucoup de développement pour les pays africains. C'est ça l'essentiel. L'Algérie est en train de préparer un projet, construire des centrales photovoltaïques, les injecter sur le réseau haute tension, faire un maillage du réseau, augmenter la capacité d'absorption de notre réseau, transporter de grands volumes d'énergie. Ça va permettre à notre grand pays de se développer et avoir pour nos pays voisins et frères de l'opération de développement en matière d'énergie.
Dans l'actualité internationale, en Palestine occupée, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés aujourd'hui dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza au 193e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne. Selon un dernier bilan, le nombre de martyrs s'élève à présent à plus de 33 840 martyrs depuis le 7 octobre dernier. Les détails tout de suite avec Milad Ben Nassar.
Au 193e jour de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne, la violence s'est intensifiée, touchant les couvertes, notamment la mosquée des martyrs d'Al-Fakhoura à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, ainsi que le camp de Nusayrat. Le journaliste palestinien Ayhem Abou Rouch met en évidence le plan de déplacement des habitants de Gaza perpétré par l'entité sioniste.
Quiconque prône le meurtre d'enfants et le viol de femmes trouve un écho clair au sein du Parlement sioniste et met en œuvre ses paroles à travers des directives militaires sans qu'aucun soutien ne vienne de la communauté internationale, perpétuant ainsi indéfiniment les conditions créées par l'occupation sioniste. Ce crime d'expulser toute présence humaine palestinienne de la bande de Gaza alimente la politique de déplacement. Cependant, le déplacement, qu'il soit forcé ou volontaire, ne sera pas arrêté par l'entité sioniste tant qu'il n'y aura pas de réelle intervention pour mettre fin au massacre dans la bande de
Gaza. Les conséquences humanitaires de ces bombardements sont dévastatrices, avec des familles entières perdant leurs proches et leur foyer détruit. Les civils sont pris au piège de la violence, incapables de fuir les attaques et de trouver refuge en raison du blocus imposé à Gaza. Ces événements soulignent l'urgence d'une action internationale pour mettre fin au cycle de violence et de souffrance dans la région.
Toujours en Palestine occupée, le membre du bureau politique du mouvement Hamas, Izzet Al-Rishq, a affirmé que le mouvement Hamas ne ferait aucun compromis dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange de détenus avant le retrait complet des forces de l'occupation sioniste de la bande de Gaza et le retour des personnes déplacées. Les détails tout de suite avec Wasila Ben Hamed.
Les négociations semblent point mort. Izzet Al-Rishq, membre du bureau Hamas, a confirmé dans un communiqué que le mouvement ne renoncera pas au retrait complet de l'occupation sioniste et au retrait des déplacés dans leur zone de la bande de Gaza. Les revendications rejetées en bloc par l'entité sioniste mettent les négociations dans l'impasse. Michel Fayed, politologue.
Pour les Israéliens, cette proposition du Hamas est uniquement une proposition qui sert à sauver leur face parce que il y a une énorme pression de la part des négociateurs. On le voit. Du côté israélien et du côté du Hamas, on est dans une position assez extrême et l'heure n'est pas encore aux négociations concrètes et réelles parce que ni l'un ni l'autre ne veut céder et faire de concessions. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc la guerre va se poursuivre.
Selon les autorités palestiniennes et l'ONU, l'agression continue de l'occupation contre Gaza a entraîné la mort en martyr de 33 797 Palestiniens, en plus du déplacement d'environ 8% de la population.
Le président iranien Ebrahim Raisi a prévenu que la moindre action de l'entité sioniste contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère de son pays. C'est ce qu'a indiqué un communiqué publié aujourd'hui par la présidence iranienne. Raisi a par ailleurs dénoncé le soutien aveugle de certains pays occidentaux au régime sioniste qui est une cause de tension dans la région, selon le président iranien Ebrahim Raisi. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, prépare donc de nouvelles sanctions en collaboration avec les alliés des États-Unis contre l'Iran en réponse à l'attaque de Téhéran contre l'entité sioniste. Les détails tout de suite avec Sabrina Wynn.
Le département du Trésor américain a annoncé qu'il imposerait de nouvelles sanctions à l'Iran après sa récente attaque visant l'entité sioniste avec des dizaines de missiles. De nouvelles sanctions pourraient accentuer une situation économique déjà très difficile, explique le spécialiste des relations internationales, Mohamed Liamani.
Les sanctions imposées par les États-Unis au cours des dernières années ont eu un impact négatif considérable sur l'économie iranienne qui souffre encore de leurs conséquences. Elle est désormais incapable de résister à de nouvelles sanctions et en cette période critique, les États-Unis tentent d'imposer des sanctions pour plaire à l'entité sioniste. Cette dernière a pour objectif de donner une réponse forte à la partie iranienne.
Il est à noter que le ministre a indiqué que le département du Trésor américain a ciblé plus de 500 individus et entités iraniennes.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a révélé que le jour de l'attaque vers l'entité sioniste, l'Iran avait fermé ses installations nucléaires en anticipation d'éventuelles représailles. Pour rappel, les centrales nucléaires ont été par le passé des cibles stratégiques pour l'armée sioniste. Lamia Hamoumi revient.
Lors d'une conférence de presse, Raphaël Grossi, le directeur à l'AEA, a commenté les tensions au Moyen-Orient et a appelé à la plus grande retenue. Selon Raphaël Grossi, ces installations devaient rouvrir le lundi 22 avril, mais l'AEA a refusé d'envoyer des inspecteurs sur place tant que la situation n'est pas complètement calmée. Selon Dr Hakem Enhez, expert des questions régionales et internationales, il s'agirait de l'hypothèse privilégiée en cas de représailles.
Nous nous attendons à une éventuelle riposte de la part de l'entité sioniste qui va certainement cibler des installations, surtout nucléaires. L'Iran a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à une telle attaque. Les analystes, eux, sont persuadés que l'entité sioniste n'ira pas jusqu'à là et si elle tentera une quelconque représailles, cela veut clairement dire qu'elle cherche la guerre.
Ces attaques potentiellement dangereuses n'auraient pas un caractère exceptionnel puisque les centrales nucléaires ont toujours été les cibles stratégiques de l'entité sioniste. En 1981, Israël avait bombardé le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak et a également admis en 2018 avoir lancé un raid aérien ultra secret 11 ans plus tôt contre un réacteur nucléaire dans l'est de la Syrie. Enfin, en 2010, une cyberattaque très sophistiquée par le biais du virus informatique Stuxnet attribué par Téhéran à l'entité sioniste et aux États-Unis avait troublé le programme nucléaire iranien, entraînant une série de pannes dans son parc de centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium.
13h44 minutes sur les ondes radio Algérie internationale. On passe au sport à présent avec Walid Bouaoui. Si on revient sur donc l'USM Alger et l'US Biskra qui s'affrontent donc ce soir au stade du 16 mai 1956 de Annaba à partir de 20h avec comme enjeu la validation du dernier billet qualificatif pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. N'est-ce pas, Walid? Bonjour.
Bonjour, effectivement, pour ce dernier quart de finale inscrit au programme de l'épreuve populaire, les deux pensionnaires de Ligue 1 partiront a priori à chance égale, même si le club algérois aura l'atout d'expérience puisqu'il est le détenteur du record de nombre de trophées en compagnie du Moudia d'Alger, le Serbe Louzdad et l'Entente de Sétif avec 8 coupes chacun. Qualifié pour le dernier carré de la Coupe de la CAF, l'USM Alger devra faire face à une accrocheuse équipe qui commence à retrouver des couleurs, affirme l'entraîneur de l'USM Alger, Juan Carlos Garrido.
Match très difficile, très dur, contre un adversaire très dur, Biskra, une équipe que nous avons perdu 1-0 à Biskra, ici nous avons gagné 1-0. S'ha déjà de pedir la dificulté de les matchs, que sea un equip que treballa très bien, joueur de bon qualité, bon treball col·lectiu, i penso que tu l'equip coneix la dificultat de les matchs, s'ha de ser positiu, perquè quan l'equip coneix que les matchs és difícil, l'equip coneix que el fot treballa el màxim per guanyar, sea un match difícil, un match contra un equip dur, et bien sûr, nous voulons gagner pour continuer dans la course.
L'US Biskra avec Mounir Zerdoud, ancien défenseur et entraîneur de l'USM Alger, l'USB qui atteint les quarts de finale de la Dame Coupe pour la première fois de son histoire, espère atteindre le dernier carré et continuer de rêver de décrocher le premier titre depuis la création du club en 1934. Dans les autres résultats des quarts de finale disputés, et donc ce week-end, la logique a été respectée avec la qualification du Serre de Blues Dead, le CS de Constantine et le Mouldia d'Alger. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie se joueront les 23 et 24 de ce mois. La commission d'organisation de la Coupe d'Algérie procédera jeudi prochain au tirage au sort pour déterminer les matchs du dernier carré.
Merci Walid Bouawish pour toutes ces précisions. On arrive ainsi, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La diplomatie religieuse à l'honneur de ce 16 avril, journée de la science et du savoir. Le projet d'une version audio du Saint-Coran, lu selon la Riwaya Warsh, est lancé. Elle sera distribuée au niveau régional et arabe. Le premier exemplaire sera offert au président de la République. Tenue aujourd'hui de la 28e édition de la journée de l'énergie, à cette occasion, le ministre de l'énergie, Edem Ben Mohamed Darkab, annonce que l'Algérie est en phase de préparer un important projet pour le développement de l'Afrique en matière d'énergie. Vous l'avez écouté dans ce journal. Plusieurs Palestiniens s'entendent bien martyrs dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza au 193e jour de l'agression sioniste. Et puis enfin, le Trésor américain prépare de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque militaire contre l'entité sioniste. Voilà, c'était donc l'édition complète de la rédaction francophone. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. La page météo présentée par Leïla Elbah, suivie de l'entretien du journal présenté par Wessila Bourbid et son invité, c'est le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Darka. Bonne écoute.
Les couleurs du ciel.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la page météo de ce mardi 16 avril. Une belle journée dégagée et ensoleillée ainsi qu'une hausse des températures est à venir. Au nord, quelques brumes locales en matinée laissent place à un ciel clair et assez chaud, notamment autour de l'intérieur ouest. Pour la partie est, des passages nuageux peuvent persister et donner quelques pluies alors que les nuages reviendront également en soirée sur les régions est par les côtes et l'intérieur, s'accompagnant de vent sur les orestes, l'intérieur et les côtes. Au sud du pays, nous conservons toujours un temps ensoleillé et chaud, parsemé de quelques voiles sur les oasis, pouvant susciter là quelques pluies orageuses. Plus généralement, les terres sahariennes dans l'ensemble ploient toujours sous le soleil et un beau ciel pur. Côté température, voici les moyennes relevées à la mi-journée. 19 degrés pour la ville des ponts suspendus Constantine, 21 degrés pour Betna, 22 degrés attendus à Béjaïa, 24 degrés attendus à Tizi Ouzou et Hatim Saoud, 26 degrés sur Alger, mais également sur Tamanrasset, 30 degrés prévus sur Oran, 32 degrés prévus sur Tlemcen, 29 degrés prévus sur Béchar, 31 degrés au Sahara central vers Adrar et Insalah, et enfin prévoyez 35 degrés sur Tindouf.
L'interview du journal.
L'interview du journal.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour cet entretien consacré à la transition énergétique en Algérie. Pour en parler avec nous, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Darka. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Monsieur le ministre, voilà, l'Algérie se dirige vers la transition énergétique, un modèle énergétique plus flexible à l'horizon 2035. Comment, monsieur le ministre, accélérer le processus de transition énergétique et par conséquent assurer la sécurité énergétique à moyen et long terme, soulignant bien sûr que l'Algérie possède tous les atouts pour réussir sa transition énergétique.
Effectivement, l'Algérie, dans la maîtrise aussi de l'énergie et la maîtrise en matière de compétences aussi bien développées en Algérie, dans la maîtrise de l'énergie, et aussi les atouts concernant le potentiel énergétique important dans notre pays, que ce soit dans les fossiles ou dans le renouvelable. Donc, ça nous donne une panoplie de choix et aussi de stratégie qu'on a mis en place pour pouvoir mettre en place une transition énergétique dans la durée et aussi d'une manière très élaborée, très étudiée, qui va nous permettre le passage à une énergie plus élaborée, plus propre et qui accompagne aussi le développement du pays. Donc, dans la stratégie que nous avons mis en place, la feuille de route adoptée par le gouvernement et le développement, bien sûr, du gaz naturel comme une priorité pour augmenter les volumes et aussi la capacité de production de notre pays pour une sécurité énergétique et aussi garantir aussi les contrats à long terme que nous avons et nos engagements à l'international. Accompagner le gaz naturel par un bouquet énergétique bien diversifié par rapport aux renouvelables, en commençant par le programme des 15 000 mégawatts que nous avons mis en place à l'horizon 2035, 15 000 mégawatts, dont 13 000 mégawatts en photovoltaïque. Et donc, nous avons déjà commencé à la première phase, la construction de centrales électriques entre 50 et 350 mégawatts pour cette phase qui va jusqu'à 2028, 3000 mégawatts. Ils sont en cours de construction et nous allons poursuivre ce programme jusqu'à atteindre les 15 000 mégawatts à l'horizon 2035 pour obtenir à terme 30% de notre génération électrique qui sera à partir de l'énergie propre renouvelable.
Le gaz naturel peut jouer, comme vous venez de le dire, monsieur le ministre, peut jouer un rôle important pour assurer justement la transition énergétique et à la fois assurer la sécurité énergétique avec le gaz naturel combiné à l'énergie renouvelable, notamment le solaire, monsieur le ministre.
Exactement, c'est ce que nous sommes en train de réaliser conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République. Donc nous sommes en train de travailler sur de nouveaux gisements, augmenter notre production de gaz naturel, le gaz naturel avec un process bas carbone qui va nous permettre d'accompagner bien sûr toute la technologie, avec la technologie accompagner ce qui se passe dans le monde pour réduire les émissions à effet de serre, pour capter le carbone, pour la séquestration du CO2 et aussi la production du méthane. Toutes ces opérations sont en train d'être réalisées par Sonatrach pour produire du gaz très propre qui accompagne le développement du pays et bien sûr accompagner le bouquet énergétique et spécialement le renouvelable. Donc avec le programme du photovoltaïque, avec ce potentiel existant dans notre pays à plus de 3000 heures d'ensoleillement et plus de 2000 kilowattheures au mètre carré. Et ça, c'est un potentiel énorme en matière de photovoltaïque que nous allons exploiter, explorer et réaliser plusieurs centrales électriques dans les Hauts Plateaux et le Grand Sud. Et avec ce programme, nous avons accompagné ce programme avec le développement du réseau très haute tension qui va lier le réseau interconnecté nord vers le réseau du Grand Sud. Et comme ça, nous allons avoir à développer un réseau électrique qui va nous permettre l'absorption de l'ensemble des productions en photovoltaïque que nous allons réaliser dans notre pays.
Monsieur le ministre, vu le potentiel que recèle notre pays, l'Algérie est la mieux placée pour attirer justement les investissements
Exactement, nous sommes devenus un pays qui présente beaucoup d'atouts et beaucoup de facteurs de clés de succès en matière d'investissement et surtout en matière énergétique. Nous offrons de l'énergie sur tout le territoire national avec de la qualité, avec aussi de la quantité et avec de la disponibilité aussi. Et aussi, nous sommes en train de produire la quasi-totalité en Algérie des équipements électriques, que ce soit le câble, les accessoires, les pylônes, les postes, et les postes de transformation et aussi les turbines à gaz qui vont nous permettre de réaliser, concrétiser des projets dans les délais et aussi dans la qualité et surtout dans les endroits nécessaires pour le développement, tels que l'accompagnement des périmètres agricoles attribués dans les hauts plateaux et le Grand Sud et aussi les zones industrielles qui sont étudié et tracé au niveau de plusieurs wilayas de notre pays.
Pensez-vous, Monsieur le Ministre, qu'on pourrait concilier écologie et intérêt économique, que ce soit ceux des pays producteurs et ceux des pays exportateurs ?
Parfaitement, mais bien sûr, madame, c'est ce qu'on est en train de faire. Sonatrach est en train de lancer un programme important dans le développement technologique et la réalisation de plusieurs projets avec des process bas carbone. Maîtrise des gaz torchés, des gaz à effet de serre, les projets aussi de captage CO2 et des process bas carbone et surtout le reboisement qui va permettre aussi de réaliser un projet de 340 millions implantés, 340 millions d'arbres, projet de Sonatrach qui vont lancer sur les 10 années à venir aussi, qui va permettre aussi de séquestrer et capter le CO2. Donc, bien sûr, nous allons avec la production du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est une énergie peu polluante. Elle est inscrite dans l'accompagnement du bouquet énergétique renouvelable. Et avec ce process que nous sommes en train de développer avec la technologie et la maîtrise de toutes ces réalisations en respectant l'environnement, ça va nous donner une énergie propre et accompagner le renouvelable et développer notre pays et avoir de l'énergie disponible pour le développement économique.
Mmh. Monsieur le ministre, une autre question. Un autre secteur, les derniers développements entre l'Iran et Israël semblent avoir sensiblement impacté le marché pétrolier, qui a immédiatement, bien sûr, réagi au lendemain de la riposte iranienne. Ma question est, monsieur le ministre, cette tendance haussière va-t-elle se maintenir tout au long de l'année ou bien c'est seulement conjoncturel ?
Vous savez, nous, le groupe de l'OPEP, et l'OPEP Plus aussi, notre grand souci, c'est de s'assurer des fondamentaux du marché et d'avoir des quantités qui permettent la bonne alimentation du marché et l'équilibre du marché. C'est ça notre souci, indépendamment de tous les problèmes géopolitiques à travers le monde. Nous sommes en train d'œuvrer et travailler ensemble pour respecter le consommateur, pour s'assurer de bon fonctionnement des approvisionnements et toujours veiller à ce que les fondamentaux sont contraintes et vont nous permettre une alimentation sans contrainte du marché mondial du pétrole. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce que nous avons toujours fait et ce que nous avons réussi à maintenir cet équilibre du marché.
Monsieur le ministre, et face aux tensions géopolitiques, l'OPEP+, comme vous venez de le dire, peut-elle poursuivre justement sa politique prudente qui a jusque-là, comme vous venez de le citer, pu maintenir un certain équilibre ?
Oui, bien sûr, nous sommes en train de respecter nos engagements de l'ensemble des pays et nous sommes en train à chaque fois de se voir et recorriger, vérifier et maintenir cet équilibre en s'assurant que l'approvisionnement est conforme le marché par rapport au marché et aux demandes et aussi ce rapport producteur-consommateur avec bien sûr veiller à ce que les fondamentaux soient sains et continuer à travailler dans ce sens pour pouvoir toujours être dans cet objectif de garantir l'équilibre du marché. Nous sommes en train de travailler sur l'équilibre du marché indépendamment de tout cela. Mmh. Nous travaillons à avoir un marché très équilibré.